Retour de l'information avec vous, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Au Zimbabwe, le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, rejette de faux résultats non vérifiés. Après la victoire annoncée hier soir du dirigeant sortant, l'ancien bras droit de Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa, élu dès le premier tour avec 50,8% des voix. Dans la capitale Harare, la situation est calme ce matin, mais la crainte d'une flambée de violence est très présente. Le candidat du mouvement pour le changement démocratique qui affrontait le dirigeant sortant totaliserait seulement 44% des suffrages. Un scrutin marqué par la violence et la mort après donc une manifestation où 6 personnes ont été tuées mercredi. Selon Pierre Boisselet, spécialiste de l'Afrique australe à l'hebdomadaire Jeune Afrique, ce scrutin, présenté initialement comme démocratique, est un échec.
Oui, effectivement, c'est un échec au moins partiel puisque Emmerson Mnangagwa et le nouveau régime zimbabwéen d'une manière générale espéraient que ces élections allaient pouvoir redorer le blason du pays et tourner la page des années Mugabe, faire en sorte que le pays ait enfin une bonne image sur le plan international, fasse revenir les investisseurs, etc. Et donc, c'est pas du tout ce à quoi on est en train d'assister. Les élections sont contestées, y compris par les observateurs européens, par exemple, qu'il avait accepté d'accueillir pendant ces élections. Donc, on ne pourra pas dire, malheureusement pour eux, que ces élections étaient transparentes. C'est vrai qu'au moment de la chute de Robert Mugabe, au mois de novembre de l'année dernière, il y a eu une réaction d'enthousiasme extraordinaire dans tout le Zimbabwe. Et les Zimbabwéens sont mis effectivement à rêver que le régime pouvait changer comme ça, en changeant simplement d'homme à sa tête. Ce dont on est en train de se rendre compte maintenant, c'est que le parti, la ZANU-PF, est resté au pouvoir. Elle a gardé les mêmes réflexes et les mêmes méthodes, même si, quand même, il faut souligner que ces élections sont quand même probablement beaucoup plus transparentes que celles qui avaient lieu sous Mugabe.
Pierre Boisselet répondait à Nabila Hamel. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle au Mali sont tombés aussi tard hier soir. Au second tour, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui a recueilli 41% des voix, affrontera l'opposant Soumaïla Cissé, qui a enregistré près de 18% des suffrages. C'est la même affiche qu'en 2013. L'ancien chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba a déposé hier sa candidature à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Un autre adversaire en exil du président Joseph Kabila, Moïse Katumbi, souhaite lui aussi se porter candidat avant la date butoir de mercredi prochain, mais les autorités ont interdit son entrée sur le territoire. Le médiateur des Nations Unies pour le Yémen propose un sommet le 6 septembre prochain à Genève pour des négociations de paix, alors que des frappes aériennes de la coalition conduite par l'Arabie Saoudite ont fait 26 morts et 50 blessés à Hodeïda hier, dans l'ouest du pays, une localité tenue par les rebelles chiites houthis, selon des humanitaires sur place, une attaque démentie par Riyad. En Chine, le mouvement MeToo semble connaître un second souffle. Après une première vague de dénonciations en début d'année, la censure avait semblé étouffer le mouvement. Mais ces dernières semaines, plusieurs cas importants ont été signalés. Un présentateur vedette de CCTV, un membre d'ONG, mais le cas qui attire le plus l'attention, c'est celui d'un abbé bouddhiste très influent dont les victimes présumées ont monté un véritable dossier d'accusation publié cette semaine. À Shanghai, les précisions de Simon Leplâtre.
L'affaire a fait grand bruit en Chine. Après des professeurs d'université, des journalistes, c'est un moine bouddhiste abbé d'un temple réputé qui est à son tour accusé de harcèlement sexuel par des disciples. Le mouvement MeToo était jusqu'ici cantonné au milieu universitaire en Chine et la censure sur Internet se chargeait d'étouffer les affaires les plus gênantes. Mais cette semaine, deux anciennes nonnes bouddhistes ont accusé l'abbé d'un monastère de Pékin d'avoir abusé de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles. On ne pourra pas reprocher à ces nonnes, toutes deux titulaires d'un doctorat, de porter leurs accusations à la légère. Ensemble, elles ont écrit un dossier de 95 pages détaillant les faits, avec des témoignages de quatre autres jeunes nonnes et des documents à l'appui comme les textos envoyés par l'abbé. Dans ces messages, il les incitait par exemple à avoir des relations sexuelles pour se purifier. Alors pourquoi un tel effort? Parce que cet abbé n'est pas n'importe qui. Le vénérable Xue Cheng était aussi le secrétaire général de l'Association bouddhiste de Chine, un organe du Parti communiste qui supervise le bouddhisme. À ce titre, il était aussi membre de la conférence consultative politique du peuple chinois. Or jusqu'ici, le mouvement MeToo a souvent achoppé aux portes du pouvoir. Justement, l'une des nonnes, auteure du rapport, explique qu'elle a choisi de dénoncer les faits publiquement parce que les victimes qui ont tenté de demander justice ont été ignorées par les autorités.
Simon Le Plâtre à Shanghai pour France Culture. 3 semaines après la Coupe du Monde de football, c'est l'heure des comptes et ils ne sont pas bons pour les sociétés françaises de paris en ligne. 12 sociétés agréées depuis 2010 par l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, ont perdu 10 millions d'euros dans la compétition. Et finalement, c'est bien la victoire des Bleus qui a précipité leur perte, comme nous l'explique Clément Martin Saint-Léon, le directeur des marchés de la prospective à l'ARJEL.
On a eu un peu 2 phases pendant cette compétition. D'abord pendant la phase de groupe où il y a eu effectivement un certain nombre de surprises. Généralement, les surprises sont plutôt à l'avantage des opérateurs parce que les parieurs, notamment les nouveaux parieurs, parient assez peu sur l'élimination de l'Allemagne au premier tour de la Coupe du Monde. Et donc dans ces cas-là, c'est plutôt à l'avantage des opérateurs et les joueurs ont tendance à plutôt perdre. Et on a eu une 2e phase après, qui était la phase du tableau final, où là il y a eu moins de surprises et il y a eu notamment le parcours de l'équipe de France qui était massivement suivi par les parieurs et qui donc du coup ont fait que les opérateurs ont eu à beaucoup plus payer les joueurs que ce qu'ils ont engrangé comme bénéfice. Sur 100 misés par les parieurs, il y en a 93 qui leur sont retournés sous forme de gains. Le problème pour les opérateurs, c'est qu'ils n'ont pas gagné 7 puisqu'ils doivent payer 9 de fiscalité. Donc là, pour les opérateurs, l'enjeu, c'est de faire de cette Coupe du Monde un investissement. Ils ont investi, ils ont effectivement perdu de l'argent parce que la France est allée loin, mais ils ont quand même pu générer des bases clients largement plus grandes que ce qu'ils avaient auparavant, puisqu'il y a eu beaucoup de recrutement pendant cette phase de Coupe du Monde. Donc l'objectif, ça va être pour les opérateurs de convertir ces joueurs sur la durée pour en faire ensuite des joueurs un peu plus réguliers. C'est là où l'ARJEL intervient d'ailleurs pour dire qu'il faut se méfier de ce type de comportement parce que c'est là que se fabriquent aussi les comportements d'addiction.
Des propos cueillis par Camille Magnard. En France, actualité marquée par la canicule. Les 2/3 du pays sont en vigilance orange. Elle concerne 66 départements aujourd'hui, selon Météo France, du sud-ouest au nord-est. Par ces temps de forte chaleur, quels sont les droits des salariés? Les précisions de Mariam El Kurdi.
La chaleur, un risque pris très au sérieux par le Code du travail. En cas de forte température, l'employeur a pour obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés. S'il estime qu'il y a danger, l'employé peut faire valoir ses droits, explique le juriste Philippe Wagner.
S'il devait y avoir un danger grave et imminent pour le salarié peut exercer un droit de retrait, c'est-à-dire qu'il peut décider de ne pas venir travailler, tout simplement.
Concrètement, l'employeur doit mettre à disposition de ses salariés des sources d'eau fraîche et potable, de quoi renouveler l'air dans les bureaux. Voilà pour la loi. Le reste relève du bon sens. Il est conseillé par exemple par l'Institut National de Recherche et de Sécurité d'aménager les horaires de travail des salariés. L'employeur peut aussi autoriser le télétravail, choix fait par Thomas qui travaille dans le marketing pour une start-up.
Il fait quand même très très chaud, on sent que tout le monde est en plus un peu fatigué avec la chaleur, donc l'ambiance peut paraître un peu tendue des fois. Et comparativement à la maison, disons qu'on est beaucoup plus productif tranquillement installé chez soi.
Enfin, si la chaleur pousse le salarié à des tenues plus légères, attention, prévient Philippe Wagner.
On a vu des condamnations par le passé de gens qui étaient en contact avec la clientèle et qui se sont mis en short. Et c'était proscrit par le cadre vestimentaire de l'entreprise. Et donc, ces gens-là ont été licenciés et à juste titre.
Tout dépend donc de votre activité et de la tolérance de votre employeur.
Mariam El Kurdi, 28 degrés déjà signalés au bord de la Méditerranée, des températures que je vous livre en pêle-mêle, hein, 30 degrés déjà près de Marseille, 29 degrés à Dijon, 34 degrés en ce moment même à Perpignan, soleil partout, maximal jusqu'à 40 degrés cet après-midi, ce sera pour le Gard.